Chapitre 11. Amour aveugle. Lucille était au piano lorsque j'entrai. « Je voulais justement vous parler, me dit-elle. On vous a cherché dans toute la maison. Où étiez-vous donc ?»«
J'étais au sable. »
Elle se leva en poussant un cri de joie.
« Il vous a tout révélé. Vous savez qui il est ?»«
Je l'ai compris à votre ton lorsque vous avez dit « j'étais au sable ».« Racontez, racontez !» Elle resta immobile et respirant à peine, tandis que je lui rapportais tout ce qui s'était passé. À peine avais-je terminé qu'elle se leva toute rouge, toute émue, et courut vers sa chambre à coucher.
« Qu'allez-vous faire ? » lui dis-je.
« Je vais chercher ma canne et mettre mon chapeau. »«
Vous allez donc sortir ? » ?»«
Oui. » »«
Où allez-vous ? » »«
Pouvez-vous le demander ?»
Je la priai de m'attendre un instant. Je voulais naturellement lui montrer l'inconvénience qu'il y avait à aller faire une seconde visite dans la même journée à un homme qu'elle ne connaissait pas.
Je lui fis observer qu'une pareille démarche pourrait mettre aux yeux de tout le monde sa réputation en danger. Mes observations eurent sur Lucille un effet des plus intéressants en me prouvant que ce que l'on est convenu d'appeler la modestie, je ne veux pas ici parler de la pudeur, n'est qu'une vertu toute superficielle et acquise non pas par ce que l'on entend, mais par ce que l'on voit. Qu'eût fait toute jeune fille, ressentant pour la première fois les atteintes de l'amour, en entendant mes observations? Elle eût assurément montré une vraie confusion. Elle eût rougi et pâli tour à tour. C'est ce qu'il y a de plus probable. Il en fut tout autrement de Lucille. Son charmant visage n'exprima que le désappointement, mélangé d'une certaine dose de surprise. J'avais devant moi, la suite me l'a bien prouvé, la plus pure de toutes les femmes, et je ne voyais nul vestige de cette confusion naturelle et charmante que j'avais le droit d'attendre. Et cependant, j'avais affaire à une jeune fille sensible, prime sautière, n'ayant pas pour habitude, même dans les occasions les plus ordinaires, de cacher ses sentiments. Je me dis que je venais de découvrir un des côtés étranges de la terrible infirmité qui jetait son ombre sur la vie de cette jeune fille, et qui me démontrait que la modestie n'est que le produit de la conscience que nous avons des regards scrutateurs fixés sur nous. Ma pauvre Lucille en était là. Elle avait toujours un bandeau sur les yeux, et ce bandeau devait dérober sans cesse à sa vue celui qu'elle aimait. Chez elle, les passions de la femme s'étaient développées en grandissant, mais elle avait gardé la hardiesse innocente de l'enfance. On m'avait confié un dépôt sacré en me donnant Lucille. Ses beaux traits, ses pauvres yeux éteints, qui n'exprimaient aucune émotion après ce que je venais de lui dire, me faisaient mal à voir. Comme elle était tout près de moi, je la pris par le bras et la fis asseoir sur mes genoux. « Ma chère enfant, lui dis-je avec instance, il ne faut pas songer à revoir M. Dubourg aujourd'hui. »
« J'aurai cependant tant de choses à lui dire, me répondit-elle avec impatience. Je voudrais lui exprimer toute la sympathie que je ressens pour lui et combien j'aimerais à contribuer à lui rendre la vie plus heureuse.
Ma chère Lucille, une demoiselle ne peut dire de ces choses-là à un jeune homme. Autant vaudrait lui dire en propres termes que vous l'aimez.
Mais oui, je l'aime.
Chut, chut, taisez-vous. Il ne faut rien dire avant d'être sûr qu'il vous aime de son côté. En pareil cas, ma chère, c'est à l'homme et non à la femme à déclarer le premier son amour.
C'est bien injuste pour la femme, me répondit Lucille. Et si c'est elle qui est la première atteinte, elle devrait le dire.
Elle réfléchit un moment, puis quitta subitement mes genoux.
Il faut absolument que je lui parle, madame, et que je lui dise que ce qu'on m'a raconté, bien loin de lui faire du tort, n'avait fait qu'augmenter l'estime que j'ai pour lui.
Reprit vivement Lucille. Elle courut chercher de nouveau son chapeau. Il ne me restait qu'à trouver un arrangement pour tout concilier.
« Je vous en prie, Lucille, lui dis-je, contentez-vous pour aujourd'hui de lui écrire sous ma dictée. »
Elle consentit, pauvre fille, bien à contre-cœur, mais elle ne voulut pas me confier la plume.
« Ma première lettre à Oscar, dit-elle, sera écrite d'un bout à l'autre de ma main. » C'est bien long et bien fatigant, mais je m'arrange pour former les caractères. Vous allez voir. »
Elle me mena jusqu'à son bureau, dans un des coins de la chambre.
Arrivée là, elle s'assit et réfléchit un instant, la plume à la main. Puis un sourire charmant illumina ses traits. « Ah ! S'écria-t-elle, je sais bien ce que je vais lui dire pour traduire ma pensée. » Et, guidant de sa main gauche sur le papier la plume qu'elle tenait de la droite, elle écrivit avec lenteur et d'une grosse écriture d'enfant les lignes suivantes. « Cher monsieur Oscar, on m'a tout raconté. Veuillez m'envoyer le petit vase d'or. Votre amie, Lucille. » Elle cacheta la lettre et écrivit elle-même l'adresse. Puis, dans sa joie, elle battit des mains et s'écria gaiement « Oscar devinera bien ce que je veux dire !» Inutile de lui faire de nouvelles remontrances. Tout en me récriant sur l'inconvenance qu'il y avait à accepter ainsi un cadeau d'un homme auquel elle n'avait parlé qu'une fois, je sonnai pour que le petit domestique alla porter la lettre au sable. Je me consolais d'avoir cédé si vite à Lucille en me disant que je tiendrais Oscar, le plus facile à mener des deux, d'une main ferme. Détourner notre attention pour occuper le temps n'était guère facile. Je proposais à Lucille de se mettre au piano, mais elle était trop absorbée dans ses pensées pour donner l'attention nécessaire à quoi que ce fût. Se rappelant tout à coup qu'il serait bon d'annoncer à son père et à sa belle-mère qu'il pouvait recevoir en toute confiance M. Dubourg, elle résolut d'écrire au recteur. Elle ne s'opposa pas cette fois à ce que j'écrivisse sous sa dictée. Nous rédigeâmes à nous deux une épître conçue en termes qui peignaient dans un style exagéré l'enthousiasme que nous inspirait notre nouvelle connaissance. Je n'étais cependant pas bien sûr de produire dans l'esprit de M. Finch une impression favorable pour notre voisin. Cela, du reste, ne m'inquiétait guère, et je me contentais de remplir en cette circonstance le rôle de l'étrangère qui montre sa prudence en allant tout de suite au renseignement. Je me faisais un point d'honneur, écrivant sous la dictée d'une aveugle, de ne point changer un mot aux phrases de Lucille. J'adressai ensuite la lettre à l'ami chez lequel demeurait pour le moment M. Finch, à Brighton. J'allais la cacheter lorsque Lucille entra. « Un instant, dit-elle, ne la cachetez pas encore. » Je me demandais pourquoi Lucille me faisait cette recommandation et pourquoi elle se montrait troublée. J'avais à faire une nouvelle découverte au sujet de l'effet de leur infirmité sur le caractère des aveugles. Il avait été décidé entre nous, et à la demande expresse de Lucille, que je ferais savoir à Madame Finch que le mystère qui enveloppait les sables s'était dissipé. Lucille ne cachait pas le peu de goût qu'elle avait pour la société de sa belle-mère et pour la tâche désagréable que cette féconde épouse imposait à tous ceux qui restaient quelque temps avec elle, en les priant de lui chercher son mouchoir ou de lui tenir son bébé. On me donna une clé, semblable à celle qui ouvrait la porte de communication entre les deux côtés de la maison, et je me retirai. J'allais dans ma chambre déposer mon chapeau et mon ombrelle. En repassant par le corridor, je vis que la porte de notre salle à manger avait été laissée entr'ouverte par quelqu'un qui était entré après moi, et j'entendis Lucille qui disait « Retire cette lettre de l'enveloppe et lis-la-moi tout haut. » Tout en ralentissant mon pas, j'entendis la vieille bonne qui lisait les premières phrases de la lettre que j'avais écrite sous la dictée de Lucille. La méfiance incurable des aveugles, chose bien triste à dire, les pousse à soupçonner tous ceux qui les entourent et à s'imaginer que les mortels qui jouissent de leurs yeux veulent toujours les tromper. C'était cet esprit de méfiance qui avait poussé Lucille à me mettre à l'épreuve dans une chose aussi utile que cette lettre à M. Finch. Elle se servait de Zilla pour s'assurer de ma bonne foi, comme elle se servit de moi dans la suite pour savoir si Zilla exécutait fidèlement les ordres qu'elle lui donnait pour le ménage. Le parfait dévouement de ceux qui les entourent de soins ne suffit même pas pour inspirer aux aveugles une parfaite confiance. Ah, pauvres malheureux, que je les plains sincèrement dans les ténèbres éternelles où se passe leur existence. On aurait dit qu'en ouvrant la grande porte de communication, j'avais ouvert simultanément toutes les portes des chambres qui donnaient dans le corridor, car une foule d'enfants sortirent, aussitôt que j'eus mis le pied dans le couloir, comme des lapins de leur terrier. « Où est votre maman ?» leur demandai-je. Les lapins me répondirent en poussant tous un grand cri et se replongèrent dans leur terrier. Je descendis voir si je n'aurais pas meilleure chance au rez-de-chaussée. Je regardai par la fenêtre du parloir et je vis dans le jardin la bohémienne de la famille, la petite Jix, qui errait de ci, de là, guettant l'occasion de s'échapper du presbytère. Cette singulière enfant ne prenait aucun plaisir à la société des autres enfants. Dans l'intérieur de la maison, à l'heure des repas, elle mangeait, lorsqu'on ne l'empêchait pas, assise par terre dans un coin. Dehors, elle irait à l'aventure tant que ses jambes pouvaient la porter, puis elle se couchait, comme un petit chien ou tout autre animal, dans le premier endroit venu, et s'endormait. Elle me vit à la fenêtre et me montra du doigt la grille du jardin, en me disant « Jix voudrait bien sortir !» À ce moment même, les cris d'un bébé, provenant du rez-de-chaussée, m'indiquèrent que je devais me trouver dans le voisinage immédiat de Madame Finch. Je marchais dans la direction d'où provenaient ces cris et je me trouvais devant la porte toute ouverte d'un grand office situé à l'extrémité du corridor. J'aperçus Madame Finch qui, assise au milieu de la pièce, faisait à sa cuisinière une distribution de provisions de ménage. Elle était affublée cette fois d'un jupon et d'un châle, et tenait sur ses genoux un roman et le bébé, tous deux couchés sur le dos. « 8 livres de savon, qu'en pouvez-vous faire, mon Dieu ?» s'écria Madame Finch en se lamentant, tandis que le bébé l'accompagnait en pleurant. « 5 livres de potasse pour la buanderie ? Ne croirait-on pas que nous lavons tout le linge du village ? Et ces 6 livres de chandelles ? Ce n'est pas possible, on doit les dévorer comme les Cosaques. A-t-on jamais vu brûler 6 livres de chandelles en une semaine ? Et quant au sucre, je me demande comment on peut en consommer 10 livres. Je n'en use pas moi-même. Quel gaspillage ! » À ce moment, Madame Finch m'aperçut à la porte. « Ah, bonjour, Madame Pratolungo, comment allez-vous ? Attendez un petit instant, je finis. Une bouteille de cirage ? Et mes bottines qu'on néglige toujours de cirer. Que vois-je ? 5 livres de riz ? Mais avec 5 livres de riz, on nourrirait aux Indes plusieurs domestiques indigènes pendant 1 an au moins. Allons, c'est fini, emportez-moi tout cela à la cuisine. Excusez mon peu de toilette, Madame Pratolungo. Comment pourrais-je en faire avec tous mes tracas ? Je n'ai pas une minute de mon temps libre, et si l'on perd ici une seule demi-heure de la matinée, on ne peut jamais la rattraper. Sans parler du tourment que me donnent l'office et le dîner des enfants, qui n'est jamais prêt, et le baby qui crie toujours. Que peut-on faire comme toilette, sinon mettre à la hâte un jupon et un châle, et se résigner à laisser les choses aller leur train ? Tiens, qu'ai-je fait de mon mouchoir ? Auriez-vous la bonté de jeter un coup d'œil parmi ces bouteilles derrière vous ? Ne vous donnez pas la peine, le voilà. Il était sous le baby. Auriez-vous la bonté de me tenir mon livre un instant ? Je crois qu'en retournant le baby, il criera moins. Madame Finch coucha l'enfant à plat ventre en lui administrant de vigoureuses tapes dans le dos. Ce changement de position, loin de calmer l'enfant, ne réussit qu'à le faire hurler de plus belle, mais sans que sa mère parût s'émouvoir de ses cris. Cette martyre des tracas de famille me jeta un regard résigné, tandis que je tenais toujours le roman, tout étourdi par les cris perçants du baby. Ah, me dit Madame Finch, c'est un roman bien intéressant que celui que vous tenez là. L'auteur y parle beaucoup d'amour. Mais vous veniez peut-être le chercher. En effet, je me rappelle que je vous avais promis de vous le prêter. Je me disposais à répondre lorsque la cuisinière revint chercher de nouvelles provisions. Madame Finch se remit à commenter chaque nouvelle demande d'un ton désespéré. « Encore une bouteille de vinaigre ? Mais vraiment, c'est à croire que vous vous en servez pour arroser le jardin. Et de l'emploi ! Je parierais que le blanchissage de la reine elle-même coûte moins cher que le nôtre. Qu'avons-nous ici ? Du papier de verre ? Papier de verre et papier de rebut, c'est tout un dans cette maison où l'on gaspille tout. Je m'en vais en parler au maître de la maison. Avec un pareil train, la somme qu'il m'alloue régulièrement pour les frais de ménage ne peut plus suffire. Un instant, Madame Pratolungo, ne partez pas encore, je suis à vous. Vous voulez absolument partir ? Alors veuillez remettre mon livre sur mes genoux et chercher derrière ce sac de farine le premier volume du roman. Il y est tombé ce matin et je n'ai pas encore eu le temps de le ramasser. Papier de verre. Vous croyez donc que j'en fabrique du papier de verre ? Trouvez-vous ce premier volume, madame ? Ah bon, vous l'avez. Il est tout couvert de farine. Il doit y avoir un trou dans le sac. 12 feuilles de papier de verre en une semaine ? Et pourquoi ? Quel coupable gaspillage ! C'est vraiment honteux. À cette partie des jérémiades de Madame Finch, je m'esquivais, mon volume sous le bras, et remettant ce que j'avais à lui dire à une occasion plus propice. Ces dernières paroles qui me parvinrent, mêlées au cri du bébé, avaient encore rapport à la prodigalité avec laquelle on employait la provision hebdomadaire de papier de verre. Versons un pleur, s'il vous plaît, sur les tribulations de Madame Finch, et laissons cette matrone britannique déclamer en paix, dans son office odoriférant de chandelles et de savon, sur l'économie domestique. Je venais de raconter à Lucille l'insuccès de ma démarche auprès de Madame Finch, lorsque le petit domestique rentra, porteur d'une réponse et du petit vase d'or. Le billet d'Oscar était aussi laconique que celui que lui avait écrit Lucille. « Vous m'avez rendu le bonheur. Quand me permettrez-vous de suivre le même chemin que ce vase que je vous envoie et de venir vous rendre visite ?» La lettre ne contenait que ces deux phrases. J'eus une nouvelle discussion avec Lucille qui me soutenait qu'il n'y aurait aucune inconvenance à recevoir, en l'absence de M. Finch, la visite d'Oscar. Ce ne fut que sur la promesse que je lui fis de l'accompagner le lendemain dans une promenade du côté des sables qu'elle consentit à attendre la réponse de son père. Cette nouvelle concession de ma part la calma. Elle avait reçu le même jour le cadeau d'Oscar et sa réponse à sa lettre. Il y avait, je crois, de quoi la contenter pour le moment. « Croyez-vous qu'il commence à m'aimer un peu ?» me dit-elle en allant se coucher avec le vase entre les bras, absolument comme, étant enfant, elle eût emporté dans son lit quelque nouveau jouet. « Il faut lui donner le temps, ma toute chère. Tout le monde ne va pas si vite que vous en besogne dans une affaire aussi sérieuse. » Ma raillerie n'eut aucun effet sur elle. « Emportez votre bougie, dit-elle. Je n'en ai pas besoin pour le voir en imagination. » Elle s'enfonça la tête avec une certaine volupté dans ses oreillers, tandis qu'elle m'administrait avec malice une petite tape sur la joue. « Allons, me dit-elle, avouez que j'ai sur vous l'avantage de pouvoir me passer de lumière la nuit et d'être à même d'aller et venir dans la maison sans faire un seul faux pas. » On eût pu chercher dans toute l'Angleterre, mais je ne crois pas qu'on eût trouvé une femme plus heureuse que la pauvre Mademoiselle Finch lorsque je la quittai pour m'aller coucher.